Et maintenant, Claire, c'est l'heure de retrouver notre dossier du jour.
Et oui, le dossier avec Virginie Berger qui aujourd'hui va nous parler plus précisément de la valeur de la musique par rapport à son prix.
Virginie, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ça va, merci.
Alors dis-moi, avant de commencer, parce que je sais que tu n'as pas trop le temps, donc d'ailleurs merci d'être venu faire partager nos auditrices et nos auditeurs un peu de ton savoir et de ta connaissance. Justement, j'ai eu des mails, notamment un que je voulais te transmettre. Alors bon, tu as les félicitations de David, de Anthony et de Nicolas, qui sont de Antoine. Ils nous disent que c'est des très très bons dossiers.
Bah merci, c'est très gentil.
Voilà, donc je me fais un peu leur témoin. Et là, je vais te lire un commentaire qu'on a eu sur notre site suite au dossier sur la fanbase qu'on a eu.
Ouais.
C'est Nicolas qui nous dit « Alors, les gars, je l'ai déjà dit ailleurs, mais autant le répéter au bon endroit, ce dossier est super intéressant pour qu'il y ait un petit groupe et on se demande comment finir avec les salles désertes. » Et il nous dit « Il y a une autre solution, apprendre à faire de la musique. » 3 points de suspension. « Finalement, la fanbase, c'est limpide. Passe moins de temps sur Internet, même si c'est nécessaire. » Et partage plus de temps avec tes potes. Small is beautiful.
Bah oui.
Voilà.
Non, mais en fait, on a l'impression qu'on. Enfin, moi, j'ai rien réinventé. Ce que je dis, je l'ai pas réinventé. Hein. Ça existe depuis très très longtemps. C'est simplement du bon sens. C'est qu'on a tendance maintenant, je sais pas, à partir dans tous les sens et à intellectualiser la musique. Je m'énerve depuis. Ça fait 15 jours que je suis sur cet article-là. Je m'énerve terriblement. J'ai vu un article sur Music Think Tank qui est. Un site américain qui normalement a pour vocation en fait de travailler justement sur la musique, sur le marketing de la musique. Et sur cet article, tu avais comment définir tes 12 types de fans.
Mmh.
Et moi, cet article me fait hurler depuis 15 jours, mais à tel point que je ne me suis pas fâchée avec l'éditeur. Pourtant, je publie chez eux, hein, donc je les aime bien, mais j'ai demandé vraiment à l'éditeur comment est-ce qu'il pouvait publier quelque chose comme ça lorsque tu es censé t'adresser en fait à des artistes. Parce que comment est-ce qu'on peut définir ces 12 types de fans lorsqu'on ne sait même pas comment en créer un fan, déjà, d'une. Et puis en plus, moi c'est ce que je disais à l'éditeur, c'est que j'aimerais bien prendre par le cou en fait la personne qui a écrit cet article-là, et puis le mettre face aux artistes que je rencontre toute la journée autour d'une table, et qu'il explique à cet artiste comment il va segmenter sa fanbase en 12 types de fans. Puis je vais regarder, et puis on va attendre. Mais concrètement, c'est... Non mais c'est vrai, c'est pas du tout opérationnel, c'est... Le plus important, c'est de construire sa fanbase. Déjà, il n'y a personne qui explique nulle part comment on l'a construit concrètement, de rien. Comment est-ce qu'on fait ? Ensuite, dans la fanbase, c'est ce qu'on disait la dernière fois, il faut quand même définir les gens qui achètent et les gens qui n'achètent pas. Et après, c'est déjà vachement bien.
Ouais.
Si en plus, on doit les définir. Ah, mais c'est de l'intellectualisation, c'est du bullshitting marketing, de l'intellectualisation du marketing qui est effroyable. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, dans la musique, il y a de plus en plus de ça. Et c'est ce que dit votre auditeur, et j'en suis ravie, c'est juste que la musique, à la base, bah, on en fait, on essaie d'en faire de la bonne.
Ouais.
En tout cas, de la musique qui aura un public quelque part. Ça peut être de la musique de niche et qui aura son public quelque part.
Mmh.
On la partage, et puis après, on travaille pour créer sa fanbase. Voilà. Donc c'est très bien, il a entièrement raison.
Et ben voilà, donc Nico a sa réponse. Si vous voulez faire comme Nicolas et puis passer à l'antenne et on transmettra à Virginie tout ce que vous voulez dire, n'oubliez pas, vous pouvez laisser vos commentaires sur le rockexpress.com. Mais Virginie, on est ensemble pour discuter, non pas de la fanbase puisque ça a déjà été fait, donc on peut le télécharger et s'abonner à iTunes pour le recevoir directement.
C'est quelque chose qui m'énerve en ce moment, les 12 types de fans. 15 jours, j'en suis désolée.
Voilà. Mais bon, on n'est pas là pour t'énerver. Justement, on va changer un peu de sujet. Et tu as souhaité aujourd'hui, dans la deuxième partie de notre mois du physique, nous parler du prix contre la valeur.
Oui, parce qu'on a tendance un petit peu à trop mélanger la valeur et le prix.
Mmh.
La valeur de la musique n'égale pas le prix de la musique. Ça n'a rien à voir. Le prix, il est déterminé par l'intersection entre l'offre et la demande. Ou il est déterminé par les maisons de disques. Ou il est déterminé par les distributeurs. La valeur, c'est vraiment intrinsèquement, c'est ce que la personne est prête à mettre sur un produit et c'est défini par sa propre approche du produit et donc par son attente et donc peut-être par la projection, par l'admiration qu'il a pour le contenu, pour l'auteur de ce produit. Par exemple, je discutais avec un label indépendant toulousain qui s'appelle Kicking Records, qui est un label plutôt punk rock, qui me disait qu'ils avaient décidé maintenant, arbitrairement, de mettre tous leurs CD à 5 euros. Parce que de toute façon, ils savent très bien qu'un CD à produire, c'est 80 centimes. Donc ils m'ont expliqué qu'ils en avaient marre en fait de que les gens savent très bien que ça coûte rien à produire, donc ils en ont marre en fait d'enfler les gens avec des CD à 9, 15, 20 euros, alors qu'un CD ça coûte 80 centimes. Donc eux ils ont décidé de définir un prix standard qui est de 5 euros. Après sur le site, vous avez des approches différentes, c'est-à-dire qu'un artiste peut vendre des produits, on en avait déjà parlé, des produits qui sont différents, des produits qui sont haut de gamme, des produits qui sont des produits en édition limitée. Où là, ça va être beaucoup plus cher parce qu'il y a véritablement en fait un produit qui est défini par l'artiste, qui va être donné à son public. Donc ça peut être des produits avec des autographes, des produits avec des t-shirts, je ne sais pas, en édition limitée, avec des billets de concert, avec des photos, avec des vinyles, avec des tas de choses. Donc là, il y a une véritable valeur sur ce produit. C'est-à-dire que la personne n'a pas peur de mettre 50, 100 euros sur ce produit. Et on l'a vu vraiment sur toutes les expériences qu'a pu faire Train 13 Nord, donc le leader de Nine, Nine Inch Nails. Donc après, on dira, oui, mais c'est Train 13 Nord, il a une fanbase, ouais. N'empêche qu'il l'a fait, il aurait pu se planter.
Oui, c'est sûr.
Voilà, complètement, fanbase ou pas. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt voir la répartition de ce qu'il propose. Et lui, il propose donc soit des achats standards de CD classiques, standards et basiques, et absolument aucun problème. Soit, après, on va beaucoup plus loin dans les produits qu'il peut proposer, qui sont vraiment packagés pour les gens qui sont vraiment fans. C'est des produits qui vont jusqu'à 5000 dollars. C'est énorme.
Ah oui, d'accord, ouais, quand même.
Non, mais ça va de 5 dollars à 5000, hein, avec entre, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur. Mais par exemple, il y a les packages, genre, la moyenne à peu près des achats est de 50 dollars, ce qui est quand même assez important. Mais parce que dedans, c'est un CD qui est vendu avec des photos, qui est vendu avec un DVD de la tournée, qui est vendu avec des tas de choses, en fait. Et là, il y a une véritable valeur. C'est-à-dire que les gens l'achètent, il y a une valeur. Mais on ne peut pas dire que vendre un CD, ça crée une valeur. Il n'y a pas de valeur à l'achat d'un CD. Il n'y en a aucun. Un CD, ça coûte 70 centimes à fabriquer.
Ah oui.
Il ne faut pas voilà, pousser le truc, quoi. Donc, il faut vraiment se poser une question quand on parle de valeur et de prix. C'est pour revenir à la gratuité et au fait que les gens n'achètent plus parce qu'ils téléchargent. Parce que justement, on a perdu cette valeur sur le CD ou sur la musique dématérialisée. C'est-à-dire que maintenant, un MP3 ou l'achat d'un titre sur iTunes à 99 cents ou un MP3 qu'on va chercher sur Internet, on ne donne pas de valeur à ça, on n'apporte pas de valeur. C'est juste un prix quelque part sur iTunes. Un CD, c'est juste un prix à la Fnac. Mais il n'y a pas de valeur autour de ça. Donc à la limite, on n'en a rien à faire d'avoir en physique, en digital, on n'en a rien à faire de pirater ou de l'acheter. Par contre, si on veut vraiment vendre et sortir du côté gratuité et piratage, faut vraiment penser à la valeur de sa musique. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre dans sa musique, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut mettre comme contenu pour que les gens aient envie d'acheter, en se disant que le concurrent c'est gratuit.
Bon, ça,
et donc à partir de là...
Tu parles du contenu musical ou extra-musical
musical, complètement, du contenu musical. Qu'est-ce
Parce
qu'on
que pas tout le monde a la démarche de se dire ce qui va plaire aux fans, il y en a plein qui vont d'abord... faire ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ressentent, et puis sans vraiment s'inquiéter de...
Moi, je dis absolument pas qu'il faut plaire aux fans. Jamais je n'ai dit qu'il fallait qu'il y ait la moindre direction artistique qui est pour les fans. Je dis juste qu'il faut se poser la question de jusqu'où on peut aller pour donner, c'est tout.
Ah, d'accord, ok.
On n'a pas envie de donner, je sais pas, moi, des photos de nous pris en studio, d'un artiste pris en studio, de bootleg, une vidéo.
Donc ça rejoint ce que tu disais là, il y a deux semaines sur le fait de fournir du contenu, de rapprocher les fans du groupe.
C'est ça, mais exactement voilà. Ça. Mais par contre, moi, je suis anti, mais vraiment anti, se poser la question par rapport aux fans. Hein. La direction artistique, pour moi, elle appartient au groupe. Elle n'appartient pas aux fans. C'est quelque chose, quelque chose sur lequel je suis vraiment pas convaincue. Je pense notamment au fanfunding, en fait, au levée de fonds qu'on fait auprès des fans pour faire son album. Alors, il y en a pour certains, ça marche super bien, c'est bien, ça leur permet de faire une tournée, de produire un album, de faire des tas de choses. Par contre, il y en a d'autres qui n'hésitent pas ensuite, parce qu'ils ont eu cette levée de fonds, à inclure les fans dans la réalisation de l'album. Et donc, de leur demander leur avis sur des titres. Mais en fait, moi, tout ce que je veux dire sur le sujet, donc, c'est que, encore une fois, on va revenir sur le choix de l'artiste. C'est à l'artiste de choisir gratuitement ce qu'il veut mettre ou pas. Personne ne doit lui imposer. C'est vraiment à chaque artiste de décider de ce qu'il veut mettre gratuitement ou pas sur Internet. Et ensuite, c'est aussi à l'artiste de décider de ce qu'il veut laisser ou pas comme contenu, une partie de ses contenus, quel type de contenu. Donc là, c'est vraiment le travail de l'artiste. Il n'y a pas d'imposition à faire. Par contre, il faut quand même se poser sérieusement la question de la valeur et de la valeur de son travail et de la valeur de sa musique. Parce que si c'est juste tenter de vendre un titre, et uniquement un titre, sans plus, sans valeur ajoutée, bon, c'est très bien que ça marche pas. Il faut quand même se poser la question de qu'est-ce qui va donner envie aux gens d'acheter sa musique. C'est plutôt ça, en fait. C'est comme ça qu'il faut se poser la question. C'est pas un titre qu'on va trouver gratos n'importe où, qu'on va trouver à 99 cents sur iTunes. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait envie d'acheter l'album? Alors, c'est pas ce type-là de questions qui se posent sur des artistes qui sont installés, qui sont connus, qui ont une fanbase. Moi, je pense, j'ai des groupes que j'adore. Je pense aux Black Keys, par exemple, ou LCD Sound System. Ils peuvent me sortir un album pourri dans une pochette pourrie avec un truc en vinyle pourri.
Ouais.
Je l'achèterai. Je m'en fous parce que c'est des gens que j'aime, que je vais voir en concert, j'aime leur musique. Mais ça fait, enfin, les Black Keys, ça fait 10 ans qu'ils tournent. LCD Sound System, ça fait aussi 10 ans. Donc, ça va. Ils ont prouvé. Ils ont ce qu'il faut. Maintenant, pour des jeunes artistes, qui essaient de vendre, faut qu'ils attirent les gens, faut qu'ils donnent envie d'écouter la musique, faut qu'il y ait des petites puces, faut qu'on rentre dans leur univers.
Oui, c'est un peu comme en concert, quand j'avais fait mes études à Londres, j'avais vu des groupes anglais qui tous bataillaient pour trouver le truc pour que les gens les retiennent. C'est-à-dire, il y en avait qui allaient proposer par exemple des visuels spécifiques, qui allaient mettre un vidéoprojecteur par exemple. Et c'est sûr que là, ils le faisaient sur scène, mais tous y bataillaient pour proposer un produit fini, une jaquette. J'en parlais aussi avec Patrice, de faire carrément. Il y en a qui font des BD dans les albums, c'est-à-dire comme ça, au moins, on peut télécharger la musique même gratuitement. Enfin, certains ils s'en foutent, on peut télécharger gratuitement, mais on achète quand même le CD avec. On rentre dans l'univers du groupe, donc je rejoins ce que tu disais. C'est
on peut complètement la télécharger gratuitement, mais c'est derrière.
Voilà, ouais.
C'est aussi inciter à acheter parce que l'artiste a donné quelque chose de lui. Ça peut être des photos, voilà, ça peut être des BD. Moi, j'adore les albums où il y a des bonus, où il y a des plages cachées, par exemple. C'est quand même super rare. Moi, j'ai des albums où dedans, j'ai trouvé dans l'album des covers qui étaient cachés en son studio. Bon, bah, ça te donne envie, quoi. T'as envie de l'avoir. C'est parce que tu aimes ce qu'il fait, donc c'est super intéressant. Donc voilà, c'était juste je trouve qu'on a tendance à trop mélanger, c'est-à-dire à croire que le prix égale la valeur. Or, le prix, c'est pas toujours. Si l'artiste est en complet développement, en autoprod, c'est effectivement lui qui va fixer le prix. Mais c'est un prix aussi qui est fixé souvent par rapport au marché, par rapport à ce que ça lui a coûté, par rapport à des coûts de production, par rapport à plein de choses. S'il est dans un label, c'est le label qui le fixe, c'est le distributeur. Et on a tendance à croire que le prix, ça égale la valeur de la musique. Or, quelqu'un qui est vraiment fan d'un artiste, mais il est prêt à mettre très cher sur un album un peu spécifique. Aux États-Unis, par exemple, j'ai encore parlé de Top Spin, mais Top Spin avait fait des tests, grosso modo, sur des ventes d'albums classiques à 10$, enfin 9,90$, et puis après des ventes d'albums qui sont packagés avec des billets pour un concert VIP, par exemple, parce qu'un concert VIP, c'était un concert qui réunit vraiment les fans. Les vrais fans, c'est vraiment un concert que donne l'artiste uniquement pour ses vrais fans. Ça peut être des t-shirts sérigraphiés et avec une signature. Ça peut être, je dis au pif un album de BD, hein, il n'était pas dans l'exemple, ça peut être tout à fait cet exemple-là. Ça peut être des photos, ça peut être un vinyle qui est inclus. Et en fait, ils arrivent à des moyennes d'achat de $50 sur le site. Donc c'est important. Parce que les gens ont envie d'acheter, parce que voilà, ça crée une relation, ça crée une proximité. Il y a un contenu différent, il y a un contenu inédit, il y a un contenu exclusif. Donc c'est ça qui est super intéressant. Il ne faut pas se dire que ça va coûter plus cher, c'est pas vrai. Ça ne va pas coûter plus cher. D'enregistrer des pistes sorties studio, moi j'adore, enfin perso, moi j'adore entendre vraiment les
versions démo
enregistrées studio, voilà, avec le bruit derrière un peu sale. Voilà, c'est super agréable aussi. Donc c'est juste vraiment se poser la question de la valeur et du prix, pas mélanger la valeur et le prix, et savoir que quelque chose qui est vraiment exclusif, qui est vraiment différent, eh ben on peut le vendre, réellement le vendre, mais que après si c'est juste un titre en MP3, franchement il vaut mieux le laisser rapidement, quoi. ça vaut pas la peine de le vendre.
Et là j'ai une question, par exemple, je sais que on a donc notre fan, un de nos fans auditeurs, Antoine, m'avait justement, je l'ai eu au téléphone la semaine dernière, parce que bon, c'est un fan proche, quoi. Et en fait.
C'est l'ami, quoi.
On est tous catégories, c'est l'ami, quoi. Non, en fait, pour tout te dire, c'est un ancien, quoi, c'est un musicien, et qui était anciennement passé dans notre émission l'année dernière. Et du coup, on a gardé contact comme ça, et du coup, il nous écoute chaque mardi. Donc là, je sais qu'il sera à l'écoute ce soir. Et,
salut Antoine.
Salut Antoine.
Voilà.
Et en fait, quand on a parlé, donc on a parlé de ses dossiers, donc qui étaient vraiment très bien et tout, et il m'a dit qu'il attendait celui-là, par exemple, le prix contre la valeur, avec une attention particulière, parce que bientôt il allait sortir son CD, et lui, il avait pas de point de repère, en fait, pour savoir on le fait combien, 5€, on le fait gratuit, on le vend 9,99€.
Alors, donc, avant d'avoir un point de repère, faut déjà qu'il sache combien ça lui coûte et combien il faut qu'il en vende pour rentrer dans ses frais. Faut déjà qu'il fasse son petit business plan à lui.
D'accord.
C'est-à-dire que déjà, super basiquement, il est quand même là pour rentrer dans ses frais, donc il est en auto-prod, je suppose.
Oui.
Oui, donc il est déjà, s'il vend un CD, c'est aussi pour rentrer dans ses frais. C'est-à-dire que l'objectif quand même, c'est pas pour faire de l'argent, c'est quand même de rembourser l'investissement qu'il a fait pour produire son CD. Mmh. La première chose. Je connais beaucoup d'artistes en auto-prod, ils cherchent pas forcément à gagner de l'argent dessus. Ils cherchent juste, au moins, à rentrer dans leurs frais. Voilà. Pour couvrir leurs frais. Donc déjà, il faut qu'il fasse un petit plan à lui, bah pour qu'il sache quels ont été ses frais et combien il faut qu'il en vende pour rentrer dans ses frais. Mmh. Ensuite, il faut savoir ce qu'il y a dedans, quelle est la moyenne. Est-ce que déjà des gens achètent du merch à la fin de son concert? Est-ce qu'il a déjà une fanbase qui est plutôt importante? Quelle est la moyenne de prix? C'est-à-dire à combien les gens achètent en fait ses t-shirts, ses CD à la fin de ses concerts? C'est important pour avoir une idée de combien les gens sont prêts à mettre sur son CD. Mmh. Ensuite, il peut faire des packages. Par exemple, donc je mets l'exemple de Kikin qui vend à 5 dollars. Mais Kikin, c'est un label, donc c'est différent. Ils ont aussi des revenus différents d'un artiste qui est en autoprod. Mmh. Mais ce qui marche bien et ce qui permet de vendre des CD en donnant l'impression aux gens quand même d'en avoir pour leur argent, si on peut dire ça, c'est de faire des packages. C'est-à-dire, c'est de vendre le CD, mais de vendre le CD avec autre chose. C'est de vendre le CD avec un t-shirt par exemple. C'est-à-dire de faire un package et là tu peux monter à 10€. Je sais pas combien vendre des t-shirts, c'est pas très très cher la prod d'un t-shirt. Mais grâce à ça, tu arrives à vraiment, c'est pas qu'un CD, c'est pas que le CD en plastique.
On peut vendre aussi le CD live, les personnes qui achètent un concert, on peut presser directement après le CD. Après le live, il y en a qui font ça maintenant. C'est vrai que c'est un truc qui est en plus quoi. Comme ça, on a la version live et version studio quoi.
J'ai vu ça avec des clés USB aussi, où en fait ils le font directement à la fin des concerts avec des clés USB. Mais oui, typiquement, c'est qu'est-ce qu'il a dans son CD? Est-ce que c'est juste son CD ou est-ce qu'il y a des versions, voilà, on en parlait, un peu live, un peu différentes. Et ensuite, donc, quel package il peut faire? Moi, je conseille vraiment les packages parce que c'est ce qui marche le plus. Si on prend l'exemple de Tote, par exemple, revenons à Tote. Si on prend son exemple, lui, à la fin de ses concerts, il marche super bien sur le merchandising. Mais parce qu'il a décidé vraiment d'offrir plein de choses. C'est-à-dire que pour 10€, tu vas avoir le CD avec un t-shirt. Et puis pour 20€, tu as le CD avec un vinyle avec un t-shirt. Et franchement, les gens sont super contents d'avoir ce type de produit. Donc ils n'hésitent pas à prendre des packages à 20€. Parce que c'est pas du vol dans le sens où tu as véritablement ce que fait l'artiste avec le t-shirt, avec le CD, avec le vinyle.
Et puis il n'y a pas Carrefour qui prend 40% au passage aussi.
Oui, il n'y a pas Carrefour.
On sait encore plus à qui on donne l'argent.
Tu sais vraiment où va l'argent. Quoi.
Voilà.
Et puis en plus, lui, il avait fait aussi des petits packages, des petits livrets avec des photos à l'intérieur, des petites choses comme ça qui faisaient un peu what you want. Et donc pay what you want, c'est-à-dire que les gens donnaient l'argent, donnaient le prix qu'ils voulaient en fait pour le CD. Et il y avait des moyennes entre 5 et 30€ en fait là-dessus. Donc il peut faire plein de choix. C'est-à-dire que moi je conseillerais vraiment le package parce que vendre le CD pour vendre le CD, oui, mais quelle valeur ajoutée il donne à sa musique et quelle valeur justement il donne à sa musique. Ou alors s'il veut vendre juste le CD, bah, qu'il le mette à un prix assez bas. Pour que ce soit vraiment le petit truc que tu achètes. Tu vois, t'as pas de problème, tu te poses pas la question de l'achat en sortant de concert, par exemple. tu l'achètes parce que tu as aimé. Donc pour 5 euros, par exemple, tu y vas. Voilà, il n'y a pas de problème. Sachant qu'un album est vendu en plus à 9,90 sur iTunes, c'est pas la peine de le vendre à 10 euros. Hein. Là, ça passera pas très bien.
Oui, ça c'est sûr.
Voilà. Et ensuite, par contre, vraiment, le packaging, l'association de produits, c'est super intéressant parce que tu diffuses ta musique, tu diffuses ton nom, tu te diffuses toi comme artiste. Et puis en plus, les gens ont vraiment l'impression qu'ils se font un cadeau. Voilà, que pour 10 euros, 20 euros, ben, tu vas avoir plusieurs objets qui proviennent de l'artiste qu'ils aiment bien.
Mmh. Voilà, c'est très... Et si tu passes uniquement, si tu dis bon bah moi j'ai pas envie d'avoir des gros coups de production, je vais juste passer en studio, avoir mon CD master en fait, et après je vais juste le vendre en numérique. Comment tu peux ajouter justement une valeur ajoutée à un titre qui va être uniquement vendu sur des plateformes telles que iTunes ou d'autres?
Bah il y en a. Enfin si je prends l'exemple d'un artiste canadien, ce qu'il a fait c'est que lui il a couplé à la vente d'un titre, il a couplé un titre gratuit. C'est-à-dire que tu achètes deux pour le prix d'un, grosso modo. D'accord. C'était un titre bonus, il avait fait un duo enregistré en studio, voilà, qu'il a couplé à la vente du titre. Tu peux aussi, il y a la qualité du titre qui est super important. C'est-à-dire que tu peux pas, franchement, pour moi, MP3, ça doit être donné, ça doit pas être vendu, hein, sérieusement. C'est hallucinant qu'on puisse vendre des MP3. MP3, ça se vend pas, ça se donne.
On est d'accord.
Voilà, après tu mets vraiment une bonne qualité. Mais après derrière, si je prends par exemple, si tu le vends non pas sur un iTunes, mais si tu décides de le vendre toi-même, donc tu le vends directement via un Bandcamp, par exemple. Donc Bandcamp, c'est ce site sur internet qui permet de vendre ta musique. Enfin, pas gratuitement parce qu'ils prennent un pourcentage dessus, ce qui est normal vu tout ce qu'ils offrent, mais tu peux vendre directement ta musique donc à tes fans. À partir de là, c'est toi qui décides de ce que tu peux mettre. Tu peux le coupler à une vidéo, par exemple, parce que tu décides de prix, tu décides de ce que tu donnes. Donc tu peux le coupler à une vidéo, tu peux donc décider de laisser le téléchargement du titre en FLAC ou en WAV ou en ce que tu veux, par exemple. Tu peux faire un titre acheté, un titre offert. Tu peux, je sais pas, le vendre avec une réduction pour le prochain achat. Tu peux faire plein de choses avec ton titre numérique. Après, le problème de le vendre sur un magasin en ligne type Amazon, Fnac, iTunes, t'as pas non plus des choix énormes, hein. C'est des conditions de vente, tu dois suivre les CGV, donc c'est pas non plus génial. Par contre, c'est pour ça que c'est super intéressant de passer maintenant par ces sites, donc type Bandcamp, qui te permettent de vendre ta musique comme tu le veux. Et le gros avantage de Bandcamp, c'est que tu n'as pas besoin, toi, d'installer une plateforme de vente en ligne. Tu n'as pas besoin de t'embêter avec Bandcamp, avec PayPal. Ils s'occupent de tout. Donc ça, c'est quand même super agréable quand tu es artiste et que tu ne sais pas forcément comment le faire et que tu n'as pas surtout envie de t'embêter.
Donc en fait, toi, tu conseillerais plus de ne pas passer par les canaux traditionnels, quoi. C'est-à-dire,
Si tu peux, oui.
Je parle en tant qu'indépendant, bien sûr. Hein.
Il faut le faire parce que de toute façon, les gens, lorsqu'ils t'écoutent, la première chose qu'ils vont faire, c'est iTunes. Donc, En tout cas, ils vont rechercher sur iTunes s'ils t'ont écouté. Donc, c'est bien d'y être, mais ça ne te coûte pas non plus grand-chose d'y être. Hein. Tu passes par un Zimbalam, par exemple, tu peux être automatiquement diffusé sur iTunes. Et depuis quelques jours, en plus, iTunes a ouvert aux artistes indépendants la possibilité de déposer leurs titres sans passer par un distributeur. C'est tout nouveau.
Ah, c'est bien ça.
C'est depuis 2 jours. Par contre, iTunes fait la sélection, hein, bien entendu, parce que sinon, on va se retrouver avec des tas de trucs. Donc, iTunes fait la sélection. Bon, après, le problème, c'est que quand tu passes par un distributeur, tu bénéficies quand même du poids du distributeur. Donc, t'es pas trop mal référencé. Quand tu passes tout seul, tu te débrouilles.
Hein, ouais, c'est ce que j'allais dire concernant Zimbalam. Ça permet d'être diffusé sur plein de plateformes. Mais le problème, c'est que c'est comme si on va à la Fnac et qu'il y avait des étagères de 20 mètres de haut, celles qui sont tout en haut.
C'est des indés.
On va pas les regarder, quoi.
Il y a des artistes, c'est vraiment un choix. Il y en a qui n'ont pas envie, par exemple, de passer par Zimbalam. Il y en a qui ne savent pas qu'il faut passer par Zimbalam. Il y en a qui ont envie de le faire tout seul. Enfin, c'est vraiment un choix. Donc, je pense qu'iTunes, ça a ouvert justement pour que tous les gens, même ceux qui ne soient pas au courant qu'on peut passer par un distributeur, puissent y aller. Après, franchement, en termes d'intégration, c'est super compliqué d'aller sur iTunes tout seul. Et ensuite, c'est ce que tu disais, en termes de promo, bon, c'est tout seul, quoi. Voilà. C'est exactement ce que tu dis. C'est comme les voilà, autoproduits, ouais. À l'époque où la FNAC acceptait les autoproduits, tu allais voir un chef de rayon avec tes CD et que tu cherchais à être présent quelque part sur un linéaire. Mmh. Donc c'est un peu ça. Mais il faut être sur iTunes et Amazon et la FNAC, et là tu passes par Zimbala, mais tu payes ton forfait tous les ans, et puis voilà, c'est terminé. Mais là, tu n'as pas le choix. De toute façon, tu n'auras pas le choix sur la vente de ta musique. Tu n'auras pas le choix. Tu seras vendu, ça sera un titre, à 0,99, tu n'as aucun choix.
Ah oui, oui.
Mais à côté de ça, ne pas non plus être présent sur un canal qui t'appartient à toi. Je pense qu'il faut être présent partout parce que maintenant, c'est suffisamment dur de vendre sa musique, donc il ne faut pas se priver d'un canal. Ça, c'est clair. Mmh. Mais il faut aussi travailler ton propre canal à toi, tout seul, où là, tu peux faire ce que tu veux et vendre comme tu veux. Et là encore, si je prends l'exemple de Reznor, bon, c'est encore une fois, on va me dire que c'est un grand, mais il avait fait un super test à ce niveau-là. Il vend sur son site et en même temps, il vend sur iTunes, Amazon et tout ce qu'on veut aux États-Unis. Et bien, les gens qui vont sur iTunes, c'est les gens qui ont l'habitude d'iTunes, qui ne sont pas des vrais fans, qui ont entendu dire que Reznor sortait, qui vont aller sur iTunes, qui vont acheter sur iTunes, c'est basta. Par contre, ce qu'ils ne savent pas, c'est que sur le site de Reznor, tu as accès aux titres en gratuit depuis des jours, que le premier jour, tu as accès à l'album à 5$ au lieu de 9$, et qu'après, pendant 10 jours, tu as du streaming gratuit, tout ce que tu veux. Et les gens qui sont sur iTunes, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas pourquoi tu parles d'acheter l'album sur iTunes. Et c'est comme ce n'est pas des vrais fans, ils n'auraient jamais été sur le site de Reznor. Et bien, en fait, c'est un petit peu la même chose pour vos canaux de diffusion. Si tu as les canaux de diffusion super standard, classiques, sur lesquels il faut que tu sois, parce que c'est. Même s'il y en a des, même s'il y a des millions de contenus, il faut quand même que tu sois, parce que les gens vont taper ton nom à la FNAC, sur Amazon, sur iTunes. Et qu'ils vont le trouver, et qu'ils vont le trouver en téléchargement sur un titre à 0,99, tu n'auras le choix de rien du tout. Très bien, mais si tu peux être acheté à 0,99, c'est toujours ça de prix. Mais les gens qui te connaissent auprès de toutes tes communautés qui ont été sur ton site, qui te suivent sur Facebook, qui te suivent sur Twitter, qui te suivent sur MySpace, ils savent aussi que tu as ton site, que sur ton site, tu as intégré l'appli Bandcamp, et que sur l'appli Bandcamp, je dis Bandcamp, je ne travaille pas pour Bandcamp, hein, mais ça peut être, ouais. Ça peut être un autre, hein, mais je trouve vraiment super bien foutu. Et sur l'appli Bandcamp, et bien, tu peux télécharger le titre en version flat, que si quand tu télécharges un titre, tu en as un deuxième offert, que lorsque tu télécharges un titre, tu as par exemple une session de photo qui t'est offerte aussi, que tu as un titre en live qui arrive, que pour 3€, ben, tu as deux titres gratuits. Enfin voilà, tu peux faire plein de choses avec Bandcamp, tu construis complètement ton offre. Et l'un n'empêche pas l'autre. Mmh. Tu as un canal de diffusion obligatoire, tu ne peux pas y couper, il faut que tu passes. Mmh.
C'est ce que... Voilà. C'est ce que tu disais d'ailleurs sur ton livre blanc, que en fait on quoi tout se recoupe, hein, et tu le disais que en fait quand on est sur son site, non seulement c'est la maison, comme tu disais sur la fanbase si je me trompe pas, et en plus tu disais que voilà quoi, comme c'est les true fans qui vont sur ton site, ben au moins ils peuvent quoi, tu peux vraiment faire quoi monétiser avec ton, grâce à ton site quoi.
C'est toujours la même chose, c'est que les gens on entend un truc à la radio ou ailleurs, ou un pote t'en parle, ou t'as été dans un concert, tu l'as vu en première partie, ou ce que tu veux, mais tu connais pas plus que ça l'artiste. Ta première réaction, c'est d'aller taper le nom sur la première réaction pour quelqu'un que tu vas acheter, je te dis, c'est d'aller taper le nom sur ton iTunes, sur ton Snap, sur ton Amazon. Voilà. Et c'est bien, et tu vas écouter, tu vas peut-être acheter, ça va te plaire, et puis après tu vas peut-être aller regarder l'artiste sur Facebook, et puis peut-être sur son MySpace, et puis peut-être que tu vas finir sur le site. Et ça, c'est tout un processus qui ne va pas arriver du premier coup comme ça. Par contre, quelqu'un qui te suit, qui t'a vraiment entendu, qui a été te voir avec toi en concert, qui est allé avec toi sur Facebook, et ben lui, il connaît ton site. Donc, il va aller directement sur ton site. Et là, tu peux faire des tas de trucs. Et là, tu peux tester. Et si je prends encore, bon là, je vais encore prendre l'exemple de Top, c'est en toute subjectivité complète, hein, donc, mais c'est un très très bon exemple. C'est que lui, il a vraiment la différence entre son site web, son Bandcamp, où là il y a vraiment des gens qui commencent à le suivre et commencent à avoir une fanbase qui le suit, c'est là où il a vendu des albums photos, des choses un peu différentes. Et puis après les autres sites où il est présent, donc il a été présent par exemple sur du livre, où là c'est juste du classique, du standard, c'est son album et c'est terminé. Voilà. Mais les gens qui vont sur Bandcamp, c'est les gens qui ont acheté son album photo, c'est les gens qui ont acheté des versions un peu différentes, c'est les gens qui ont écouté des versions live. Parce qu'il a laissé une version live que tu avais passée en fait en téléchargement gratuit. Mmh. Voilà, c'est des gens qui connaissent vraiment. Et c'est comme ça qu'il construit en fait la fanbase entre la distribution classique standard qu'il a eu sur Believe et puis la construction de la fanbase à travers des tas de tests, des tas de dons aussi, de découpes, de d'objets un peu différents qu'il a mis sur grand plan. Ça te permet aussi de tester. Donc c'est pas mal. Lui s'est rendu compte qu'il y avait des trucs, par exemple, bah, les titres à 1€, ça marche pas, quoi. Voilà. Le titre à 1€ tout seul, ça va pas marcher. C'est là où on en revient à la valeur. Parce que les gens, les titres à 1€ tout seul, ils ont pas besoin de top pour avoir pour trouver un titre à 1€. Ou pour le télécharger gratos, ou pour aller l'acheter sur iTunes. Ils n'ont pas besoin de ça. Par contre, les albums photos, eh ben, il les a tous vendus.
Ouais.
Parce qu'il y avait quelque chose qui était lié à ça. Il y avait son CD, il y avait des photos, il y avait vraiment une valeur autour de l'objet, donc une valeur autour de ce que l'artiste voulait faire passer. Parce qu'il diffuse aussi son message à travers ça. Donc voilà. Et en plus, ça ne doit pas coûter très cher, hein, parce que je crois que le prix de... Je ne vais pas me tromper, je pense qu'il râlera s'il m'entend ou si j'ai une erreur. Mais je crois que ça devait être entre 4 et 5 euros, en fait, la construction, enfin le prix de revient de l'album photo. Donc c'est pas non plus excessif, hein. Quand tu décides ensuite de le vendre derrière, quand on produit pas énormément, et puis que tu les vends, c'est pas un investissement énorme, en fait. C'est pas un investissement énorme, mais par contre, c'est quelque chose qui a été vendu vraiment super rapidement. Et il y a eu rupture de stock sur les albums photos. Donc c'est pas mal.
Ah oui, c'est pas mal, ouais.
Voilà.
Ouais, ça c'est sûr. Eh ben, en tout cas, vous pouvez réagir sur ce dossier sur le rockexpress.com et très prochainement, Virginie, je crois, sur le virginieberger.com.
Je te dis, si je meurs pas d'ici là, si j'arrive encore à avancer, parce que j'avoue que je crise dessus, je dis oui, j'ai enfin mon vrai site qui sera plus un blog, mais un vrai site. Et vraiment avec plein de contenu, hein. Je dis pas ça parce que c'est mon site, mais ouais. Je le regardais cet après-midi, je le trouve quand même super beau. Je pense que ça doit être la fierté de la maman, j'en sais rien. Ça me passera peut-être dans quelques jours. Donc, quand on se rend compte qu'il y a plein de bugs. Mais ça arrive jeudi matin et ça sera sur virginieberger.com tout à fait.
Eh ben, ça sera donc à aller voir. Et puis surtout aussi le
podcast de Rock Express.
Ça c'est très gentil. Merci beaucoup. Donc oui, en parlant du podcast, on pourra vous, chères auditrices et auditeurs, vous pourrez le retrouver dès demain à partir de, allez, on va dire 14h, 14-15h à peu près, vous pourrez le retrouver. Et aussi Virginie, si vous avez envie d'en savoir plus sur Virginie Berger, il y a bientôt aussi le livre qui sera le cadeau de Noël à vous offrir impérativement.
Oui, j'espère bien.
Voilà, si tu ne pètes pas un câble, dis cela. 200 pages.
Et ouais. Oui, d'ailleurs, je vais juste pour le lancement du site, j'ai remis à jour « C'est quoi une bonne stratégie musicale ?» Donc, elle est, donc le livre blanc dont tu parles, il est remis à jour. Donc, je le lance avec le lancement du site. Donc là, on passe de 30 pages à 70 pages. Donc, il sera en téléchargement gratuit, bien évidemment, sur le site. Enfin, sur SlideShare, c'est beaucoup plus pratique que sur le site. Et je l'ai également découpé en plein d'articles parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de se taper tout le bouquin. Et qui préfèrent y aller par thématique. Donc en fait, le livre a été découpé en une quinzaine d'articles, où justement vous retrouverez la gratuité, la valeur, la construction du site, Facebook et tout ce qu'on veut. Voilà.
Eh ben écoute, ça c'est vraiment très gentil de ta part de le mettre à disposition gratuitement de toutes les personnes intéressées. Alors Virginie, on va se quitter en musique. Allez, moi je suis un grand fou là, j'ai envie de te faire plaisir et pour te remercier de venir nous faire partager tout ça à chaque émission. Donc vas-y, je te laisse choisir le titre pour conclure ce dossier prix contre valeur.
Qu'est-ce que j'écoutais en ce moment? Je suis assez tot en ce moment. Je sais pas si tu veux la cover de Justice qu'ils ont fait de Water of Nazareth. Hein, qui est une cover absolument géniale.
Non, mais je peux la trouver.
Ben voilà.
D'accord.
Et ben moi, je dirais la cover de Tot, Water of Nazareth.
Eh ben écoute, on s'écoutera ça.
Merci beaucoup.
Eh bien, écoute, on te fait des bises, bon courage. Et puis, dans 15 jours, tu ne seras pas là, par contre. Hein.
Non, parce que dans 15 jours, c'est mon anniversaire, pour tout vous dire.
Ah, d'accord. Écoute. Écoute, joyeux anniversaire en avance.
Mais voilà, par avance. Donc, dans 15 jours, je fêterai mon anniversaire. Voilà.
Écoute.
Je dormirai suite à la fête de mon anniversaire, je ne sais pas encore.
Écoute, ça, nous on aura une petite surprise à proposer à nos auditeurs. On se retrouvera quand même pendant le mois de décembre.
Oui, sans problème, avec plaisir.
Écoute, passe une bonne fin de soirée.
Okay,
et puis à très bientôt.
À très bientôt, au revoir.
À très bientôt. Ciao.